Bien, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Pas besoin de micro? C'est bon? Effectivement, je vais vous proposer un apport biblique sur la liberté du chrétien. Et faut d'abord savoir que moi, je ne suis pas un artiste. Je n'ai jamais vraiment fait d'art, je n'ai pas particulièrement étudié l'art. J'ai surtout étudié la Bible. Certes, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été traducteur et j'aime beaucoup la langue française et les langues en général. Donc c'est quelque chose qui me touche, mais je n'ai pas la formation d'artiste et je ne me prétends pas artiste. Donc je viens vers vous en tant que théologien, si je puis dire, et je mesure la difficulté que c'est de vous parler de l'art et de la liberté d'un artiste. En gros, je vais vous dire ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Je ne sais pas si on va être amis. Voyez-vous, comme je l'ai dit, je fais de la théologie et tout le monde sait que les théologiens, ce sont des gens qui aiment se donner des airs très sérieux et froncer leurs gros sourcils pour dire... ce ne sont pas des créatifs, ce ne sont pas des rêveurs, sauf peut-être certains libéraux. Mais bon, c'est un autre débat. Donc je ne suis pas un artiste, mais comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'art et j'aime beaucoup les artistes. Je suis un amateur d'art et je suis un amateur en art. Mais je suis aussi moi-même un peu rêveur et je rêve que les artistes fassent de la théologie et inversement. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je suis là ce matin pour vous apporter des réflexions théologiques sur l'art et écouter vos réflexions artistiques sur la théologie, sur la vision du monde biblique. Et je vous propose une intervention en deux parties. La première, centrée sur un texte biblique, donc ce sera dans le livre des Corinthiens, l'épître de Paul adressée aux Corinthiens. On verra le chapitre 8, un texte très connu sur les fameuses viandes sacrifiées aux idoles, mais souvent mal interprétées. Et ensuite, je vous proposerai d'élargir en fait le sujet pour avoir une vision plus globale de l'art et de l'artiste, de leur liberté au regard de la Bible. Alors commençons par la lecture du texte en 1 Corinthiens au chapitre 8. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Il est beaucoup question de connaissance et de savoir. La vérité que Paul nous expose dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de danger pour le chrétien à manger des viandes sacrifié aux idoles. En soi, il n'y a pas de danger physique, il n'y a pas de danger spirituel lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on a été libéré par elle. Mais pour certains chrétiens de l'époque, pour lesquels ces dieux représentent encore quelque chose qui les touche, ces dieux représentent encore un danger, le risque est réel. Ce texte est souvent mal appliqué. Un exemple de mauvaise application, de mauvaise conclusion qu'on pourrait tirer de ce texte, c'est qu'on devrait se retenir de tout ce qui pourrait choquer ou susciter la tentation chez nos frères. Ce n'est pas ce que dit le texte. C'est une interprétation typique de notre époque, une interprétation très postmoderne, où il ne faut surtout pas choquer la sensibilité de l'autre. Parfois, et Jésus comme Paul nous le montre, il faut secouer un peu nos frères et nos sœurs, nos ennemis aussi. Jésus n'hésitait pas, jamais gratuitement, mais il n'hésitait pas à proférer des propos insultants. Il traitait certains de renards, il traitait d'autres de tombes blanchies. Paul lui-même appelle les Galates insensés. Ce n'est jamais gratuit, mais ces propos qui se sont acquis par droit, puisqu'il les aime et qu'il est là pour les aider, ces propos sont bienveillants, même s'ils secouent. Alors comment bien appliquer ce texte? Comment vraiment s'assurer qu'on n'est pas en train de prendre l'application postmoderne, l'application de notre époque, mais vraiment tirer du texte ce qu'il dit? D'abord, et je me permets d'en parler parce que moi-même, ayant été traducteur, je comprends les difficultés de traduction, je voudrais revenir sur la dernière phrase. Souvent, elle a été traduite par « je ne ferai rien qui puisse scandaliser mon frère ». Et c'est vrai qu'avec une telle traduction, on a l'impression que ce texte dise qu'il ne faut rien faire qui puisse choquer. Et certes, la forme verbale dans le grec tente à permettre de traduire de cette manière-là. Il ne faut pas scandaliser. Mais en fait, le verbe, plus généralement, veut bien dire « faire trébucher ». Faire trébucher dans le sens de « faire pécher ». Et les versets 7 et 10, donc le contexte en général et les versets 7 et 10 en particulier, indiquent qu'il s'agit plutôt de montrer un exemple que l'autre n'est pas capable de suivre sans trébucher. Ce n'est donc pas que ce qu'on va faire va le choquer, mais c'est qu'on va lui montrer un exemple qu'il va vouloir suivre et que lui, en suivant cet exemple, va pécher, là où nous ne péchons pas. C'est donc par souci de ne pas mener les autres à l'idolâtrie, plutôt que par souci de ne pas les choquer, que le chrétien est appelé ici à limiter son droit, sa liberté. Il est beaucoup aussi question de conscience. On le voit au verset 7, au verset 12. Il y a une conscience souillée, une conscience blessée. À chaque fois, il s'agit encore une fois de péché. La conscience souillée, sous-entendu souillée par le péché. Le mot qui est utilisé là fait vraiment référence à ce qui entache comme le péché. Et même lorsqu'on parle de blesser leur conscience, c'est une redite de ce qui est dit juste avant, c'est le fait de pécher contre un frère. Blesser la conscience, c'est le mot blesser ici est utilisé pour dire meurtrir, battre. Il y a une sorte de dommage qui est fait à l'autre. Donc on ne devrait pas montrer un exemple qui mène d'autres à nous imiter, quand leur situation ne leur permet pas de le faire sans idolâtrie, parce qu'ils sont sensibles aux tentations que cela implique. Voilà vraiment ce que Paul est en train de nous dire ici. Alors pour prendre un exemple concret, qui va peut-être vous parler, imaginons qu'un artiste veuille peindre le Christ nu, et son but serait d'insister sur l'humanité, la réalité, de Christ. Donc il le peindrait par exemple avec quelques rides, avec un grain de la peau qui insiste sur le réalisme de l'image, et peut-être aussi en le peignant nu, en montrant ses parties génitales. Ça peut choquer, c'est sûr. Son but est vraiment d'insister sur le côté corporel, réel de Christ, contre l'idole qu'on peut avoir aujourd'hui d'un Christ éthéré, d'un Christ qui finalement ne serait pas humain. Ça peut choquer parce que certains vont juger ça indécent. Ça peut mener certains à se moquer parce qu'ils vont tourner en ridicule cette chute de leur idole. On a fait de Christ une idole complètement éthérée, non humain. Quand on insiste sur son côté humain, ils vont peut-être aller dans l'excès inverse et ils vont dire « Ah, regardez, Christ est tout nu, ah, 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 c'est marrant, on voit son zizi. » Et pour d'autres, peut-être que ça pourra susciter un attrait sexuel. Toutes ces choses sont des risques, effectivement, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, mais ce n'est pas quelque chose qui est interdit par Paul ici dans ce texte. Ce à quoi Paul ferait référence dans cette situation, c'est si vous, en tant qu'artiste, vous représentez Christ nu et que vous encouragez par là même d'autres artistes à se dire « c'est bon, toutes les limites sont tombées, on peut représenter ce qu'on veut comme on veut » et qu'ils se mettent à représenter Christ nu spécifiquement pour choquer, par souci d'être indécent, par volonté de ridiculiser Christ ou qui le représente d'une manière qui est faite pour générer un attrait sexuel. Voilà quel serait le danger. Voilà quel est le danger de l'exemple que vous montrez. Il y a d'autres exemples. J'ai pris un exemple assez évident, la sexualité, parce que c'est souvent ce qui est remis en cause. Il y en a d'autres, comme par exemple la magie. Récemment, j'ai découvert tout l'effort qu'avait mis Tolkien dans l'utilisation, dans la présentation de la magie dans ses œuvres. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui refusent a priori tout ce qui peut concerner la magie, tout ce qui met en scène la magie d'une manière positive. Parce qu'il y a marqué dans la Bible que la magie est interdite. Comment est-ce que Tolkien, qui pourtant est admiré tant en tant qu'artiste qu'en tant que chrétien et qu'en tant que théologien, comment a-t-il pu mettre de la magie dans ses œuvres d'une manière qui semble aussi positive? Et en réalité, il a fait beaucoup d'efforts pour justement ne pas subvertir le message chrétien. Et c'est qu'une lecture de surface qui peut nous donner l'impression qu'il met en scène la magie de manière positive pour les humains. Et je dis bien pour les humains, parce qu'en fait, dans ses œuvres, les humains ne pratiquent pas la magie. Ce ne sont jamais des humains qui pratiquent la magie, ou en tout cas pas de manière exemplaire. Les seuls humains qui pratiquent la magie sont justement des humains dont l'exemple n'est pas à suivre. Ceux qui pratiquent la magie sont les magiciens, qui ne sont pas des humains. Ce sont les elfes, pareil, qui ne sont pas des humains. Il y a même un souci de représenter deux types de magie, non pas en tant que magie même, mais en tant que rapport au surnaturel. Il y a une symbolique très forte entre la magie des elfes et des magiciens qui semble plutôt faible, qui est symbolisée souvent par la lumière, et la magie de l'ennemi, la magie de Sauron qui est centrée sur le feu, centrée sur les ombres, et qui est, elle, très spectaculaire. Il y a un véritable attrait qu'on peut ressentir pour cette magie spectaculaire. Mais, clairement, dans ses œuvres, elle est représentée comme quelque chose de mauvais et qui, justement, joue sur cet attrait qu'on a pour elle pour nous piéger, pour nous faire trébucher. Je pense que si on a une lecture rapide de Tolkien, on peut se scandaliser. Mais est-ce qu'on peut le condamner sur la base de ce texte? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il a fait énormément d'efforts pour montrer que la magie n'était pas en soi mauvaise, dans le sens où ce qu'il entend par magie, c'est le rapport au surnaturel. Il nous encourage à un rapport au surnaturel qui correspond à la manière dont Dieu agit, c'est-à-dire quelque chose de faible. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Dieu n'est pas venu pour faire éclater de manière spectaculaire, de la manière dont nous on pourrait s'y attendre, une victoire militaire, mais de manière discrète, de manière humble. Voilà, selon moi, un bon exemple de ce que peut être un artiste chrétien, de la manière dont on peut utiliser notre liberté pour traiter un sujet, mais avec des principes qui ne sont pas contraires à ceux de la Bible. Et je pense que Tolkien est d'autant plus un meilleur exemple qu'il a utilisé son influence pour conseiller, orienter C.S. Lewis dans sa rédaction des Chroniques de Narnia. On retrouve en fait exactement la même chose dans les Chroniques de Narnia, où il y a un seul personnage qui pratique la magie, et ce personnage, c'est Koryakin, qui en fait n'est pas un humain. Par exemple contraire, on peut trouver J.K. Rowling, qui, même si ses œuvres ont d'autres mérites, met en scène tout de même de manière positive la magie, et peut encourager les humains à se dire qu'on peut pratiquer la magie, qu'il n'y a pas de mal, il ne semble pas y avoir de différence fondamentale entre la manière dont entre la magie qui est pratiquée par les gentils et la magie qui est pratiquée par les méchants. plus généralement, et pour passer maintenant à notre deuxième partie, on va prendre un peu plus de recul et se poser la question de ce qu'est l'art et quelle est la liberté qu'on peut avoir dans l'art et par l'art. Un des principaux problèmes de l'art aujourd'hui, c'est qu'il est envisagé comme une expérience esthétique personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'artiste et la personne qui observe l'art. Chacun fait son expérience séparément. Quelque part, c'est une exploration identitaire. On se découvre, on découvre ce qu'on ressent au contact d'une œuvre d'art. Et ça n'a presque pas d'importance qui est l'auteur à l'origine. C'est typique de l'individualisme. Et c'est vraiment cette doctrine qui nous dit que l'humanité, finalement, est définie par sa capacité à faire l'expérience de l'art plutôt que sa capacité à converger. Il n'y a pas de recherche d'unité. Si j'en crois Tolstoï, qui toute sa vie a pratiqué l'art et qui, à la fin de sa vie, a écrit un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'art ?», sorti en 1897, la manière dont lui définit l'art, c'est que c'est un moyen non rationnel de communiquer. Et il entend communiquer au sens ancien, c'est-à-dire à la fois communiquer, transférer des informations, mais aussi communier, faire converger les gens dans un sens. C'est un moyen non rationnel. Ça ne veut pas dire que c'est un moyen irrationnel. On peut formuler le message de tout art de manière rationnelle. On peut écrire une phrase qui explique ce qu'une œuvre est censée dire. Mais la manière, la forme dont une œuvre d'art la manière dont une œuvre d'art va être faite, fait qu'elle ne parlera pas avant tout à notre raison. Herman Dooyeweerd, qui était lui aussi poète dans sa jeunesse, dans plusieurs ouvrages a exposé un avis similaire. Pour lui, l'art commence par simuler dans notre imagination et sur la base de notre vécu un ressenti, que ce soit un ressenti sensoriel ou mental. Et ensuite, on veut créer quelque chose qui va susciter le même ressenti, la même simulation dans l'esprit de ceux qui vont l'observer, qui vont en faire l'expérience. Donc il y a véritablement une volonté de transmettre quelque chose, de faire converger une autre personne vers ce qu'on voit. L'enjeu ici, l'enjeu de l'art, est donc d'amener l'autre à faire la même expérience que nous. Quelle est l'expérience que l'on fait en tant que chrétien ? On rencontre Dieu dans la réalité. Toute la réalité est pleine de Dieu. Et parce que Dieu s'est révélé à nous, nous pouvons le voir. Quelqu'un qui n'est pas chrétien ne pourra pas voir Dieu de la même manière. Et donc, on essaye de le mettre à notre place, littéralement. On essaye de recréer chez lui ce dont on a fait l'expérience. Comment peut-on le faire ? Alors, Francis Schaeffer, par exemple, a beaucoup travaillé sur la question de l'art. Et selon lui, il y a deux thèmes dans l'art chrétien. Il y a le thème mineur, qui est la question du péché, de la chute et du jugement. C'est une réalité que l'on observe autour de nous et que l'on doit faire remarquer, que l'on doit souligner, on ne peut pas l'ignorer. Et il y a aussi le thème majeur, qui est la grâce, le fait que Dieu est réel et qu'il est connaissable, qu'il vient pour nous sauver. C'est le thème majeur parce qu'il est dominant. On ne doit pas s'arrêter quelque part sur le thème mineur. Et justement, l'artiste a ce rôle de libérer, parce que lui-même est libéré. Il peut libérer la vision du monde, libérer le chrétien, ou en tout cas libérer sa connaissance, dans la mesure où Dieu s'est révélé à lui. Et il peut, quelque part, susciter cette même capacité à voir Dieu dans la réalité, chez son audience. Le chrétien est libéré dans la mesure où il n'est plus paralysé par l'idolâtrie. L'idolâtrie nous focalise sur quelque chose qui n'est pas Dieu, qui n'est pas véritablement la réalité. Ça nous fait rater une partie de la réalité et, comme je l'ai montré, dans notre culture, ça nous individualise, ça nous isole. La liberté, si on devait la définir ici, dans le texte que je vous ai proposé, la liberté avait un sens de droit, d'autorité, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas vous refuser, une influence quelque part. Plus généralement, la liberté, si je la mets en rapport avec la notion d'art, et notamment dans l'Ancien Testament, c'est le fait de correspondre à la nature des choses. On est libre lorsqu'on est pleinement soi-même. Et notre art est libre et libère lorsqu'il reflète véritablement la réalité. Tant pour l'artiste, donc, qui doit être authentique dans son art, que pour son œuvre, qui doit donc véhiculer la vérité. Encore une fois, c'est une recherche de communion. On cherche à communiquer ce qui est vrai et on invite à converger vers le vrai. Dans ce sens, l'artiste chrétien a véritablement une vocation prophétique. Il y a donc toujours quelque chose d'iconoclaste dans l'art chrétien. On va toujours chercher, en tant que chrétien, à faire tomber les idoles, y compris des fois au sein du christianisme. Et ça ne fera pas toujours plaisir, et ça scandalisera parfois. Mais on a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'influence que l'on a. Et surtout, particulièrement en tant qu'artiste, je crois, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience, en tout cas en tant que traducteur, il faut se méfier de l'orgueil. L'orgueil est ce qui peut nous faire basculer d'un artiste qui montre un exemple pour mener à Dieu à un artiste qui montre un exemple pour mener à lui. Une question qu'on peut se poser en tant qu'artiste chrétien, c'est: est-ce que pour être complètement libre, l'artiste chrétien doit être libre de toute pression? Est-ce qu'il ne doit avoir aucune contrainte ni aucune pression? En Christ, je pense que l'artiste est libéré des pressions idolâtres. Et je pense à 5 pressions idolâtres notamment. La première, c'est la pression de devoir tout exprimer en une seule vie. Si on n'a pas la perspective de l'éternité, on se dit qu'on doit tout dire maintenant, et peut-être même tout dire tant qu'on est jeune, tant qu'on a encore les capacités. Quand on est chrétien, on sait qu'on aura l'éternité, que ce que l'on fait actuellement n'est pas limité dans le temps, tant notre art que notre capacité à réaliser cet art. La deuxième pression, c'est le fameux mythe de l'artiste maudit. C'est cette idée que le malheur est vecteur de profondeur de sentiments, profondeur d'émotions, et que donc il n'y a qu'en étant malheureux qu'on pourra vraiment faire des choses grandes, et qu'on ne peut atteindre la profondeur de notre art qu'en étant profondément malheureux. C'est faux. En Christ, on sait que c'est la joie et la gratuité qui fait qu'on va créer. Dieu est le créateur par excellence. Et Dieu n'est pas profondément malheureux. Il est profondément attristé de voir le péché. Mais la manière dont il se présente, c'est un Dieu de joie, un Dieu qui crée par plaisir. Une des questions qu'on peut se poser, c'est: pourquoi Dieu a créé? Je ne sais pas si la Bible donne une réponse claire et nette à cette question. Mais si on considère que Dieu n'avait pas besoin de créer, en tout cas on sait que c'est un acte gratuit et que c'était entièrement au bénéfice de ce qu'il allait créer, donc à notre bénéfice. Ce qu'il vivait était déjà parfait. Et ce qu'il a créé allait hériter de cette perfection et il allait pouvoir la partager avec eux. Il y a vraiment fondamentalement dans l'acte de création quelque chose de joyeux, de libre et de gratuit. L'artiste chrétien sait ça et il sait se nourrir, c'est s'abreuver de Dieu pour le vivre. Il ne croit pas ce mensonge qu'il faut être malheureux. Une troisième pression, c'est la pression de l'excellence. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire que l'artiste chrétien est libre d'être médiocre. Ça a l'air un peu dépréciatif. Mais en fait, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinairement bon. Et vous n'avez pas besoin d'être extraordinairement bon tout le temps non plus. Henri Blocher a écrit une dizaine de pages sur la question de la poésie dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament. Et une des choses qu'il remarque, c'est que la poésie biblique n'est pas extraordinaire. Elle nous semble très exotique, et donc on est très impressionné par toutes les comparaisons, et c'est vrai qu'elle est très visuelle dans ses métaphores. Mais ce n'est pas un joyau de la poésie, même pour l'époque. quand on se penche dessus, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas très bon non plus. Ce n'est pas très recherché, ce n'est pas très sophistiqué. Et je pense que si Dieu a permis à des gens qui ont utilisé l'art littéraire, l'art poétique aussi, de faire partie de sa révélation, ça retire quand même une grosse pression aux artistes d'aujourd'hui qui ne contribuent pas à quelque chose d'aussi important que la Bible, mais qui expriment librement la joie dans leur art. Si vous n'êtes pas très bon, c'est pas grave. En tout cas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un artiste reconnu mondialement ou qui rencontre le succès auprès des hommes et même auprès de l'Église, que votre art a moins de valeur, que votre art a moins de sens. Les deux dernières pressions sont peut-être les plus répandues et les plus difficiles pour le chrétien. C'est la solitude de l'incompris. On est un artiste et personne ne nous comprend. Et du coup, on est seul. La cinquième pression, c'est le poids de l'inspiration. C'est-à-dire que quand on n'est pas chrétien, tout repose sur nous. On est la source de l'inspiration. Et donc, si l'art est mauvais, c'est qu'on est mauvais. Et si l'art est bon, c'est qu'on est bon. Mais c'est vraiment les montagnes russes. Pour contrer ces deux perspectives, le chrétien sait qu'il n'est pas seul, parce qu'il est entouré de l'Église, et qu'il s'abreuve auprès du Créateur. Il s'abreuve auprès du Créateur, le poids de l'inspiration ne repose pas entièrement sur lui. Et il est entouré par l'Église, et il est soutenu par l'Église. Alors, bien sûr, je vous imagine déjà en train de me dire, « L'Église, cette bande de débiles qui comprend rien à mon art !» Et l'artiste, évidemment, sera toujours tenté de s'entourer des gens qu'il comprenne. Et souvent, ces gens qui ne le comprennent ne sont pas dans l'Église. Mais nous sommes appelés à porter notre héritage et à mettre nos dons à contribution en famille. La liberté n'implique pas qu'il n'y a aucune pression. La liberté implique qu'il n'y a aucune pression idolâtre. Mais la liberté dans la Bible, ce n'est pas être libre de, mais être libre pour. Dieu ne veut pas nous détacher de toutes les choses, il veut qu'on s'attache à lui. Il veut qu'on se détache des mauvaises choses pour s'attacher à lui et s'attacher à nos frères et sœurs. L'artiste chrétien sait que c'est difficile. Il sait qu'il doit être patient. Mais il sait qu'il ne peut pas être complètement satisfait de son art aussi, s'il n'est pas soutenu par son Église, s'il n'y a pas une dimension collective dans son art. Et de ce point de vue-là, je pense que beaucoup de chrétiens, moi y compris, doivent demander pardon aux artistes parce qu'on ne vous a pas soutenu, on n'a pas compris, on n'a pas forcément cherché à comprendre, on n'a pas été patient, on a condamné trop rapidement. On a tous besoin d'être patients les uns avec les autres. D'ailleurs, les uns les autres, si on regarde dans le Nouveau Testament, il y a énormément de commandements qui s'expriment ainsi. La vraie liberté, la vraie capacité, finalement, que Dieu nous donne, n'est pas tant de faire l'expérience individuelle de la beauté et de l'esthétique, mais de vivre ensemble et de partager des choses et de converger dans ces choses. Certes, l'Église a, ou en tout cas les chrétiens, ont généralement des connaissances artistiques assez médiocres et une tendance à juger plutôt qu'à chercher à comprendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de médiateurs, on a besoin de personnes qui vont aider les chrétiens qui ne connaissent pas grand-chose à l'art et les chrétiens artistes à se comprendre, à être patients les uns avec les autres. Le réseau GBUR en est déjà un très bel exemple et je suis très très content de voir que ça se perpétue, de voir qu'il y a des gens qui y participent, de voir qu'il y a des gens qui font des efforts pour cette entreprise, pour s'édifier ensemble et pour que l'Église accueille et soutienne pleinement les artistes. Encore une fois, je ne suis pas artiste moi-même, mais j'espère que vous pourrez avoir de la patience avec moi, que vous saurez, quand vous retournerez dans vos églises individuelles, qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ne savent pas, mais peut-être sont prêtes à savoir, qui n'ont pas forcément la connaissance, mais qui sont prêtes à être édifiées. Merci.